Monsieur le directeur général du Fonds monétaire, on ne vous présente pas, on vous cède la parole.
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs, je veux d'abord vous dire vraiment sincèrement combien c'est un plaisir pour moi d'être avec vous ce matin. D'abord parce que c'est toujours un plaisir d'être au Maroc, mais en plus particulièrement ici à Agadir où je me sens chez moi. J'espère que mes amis marocains ne m'en voudront pas trop de cette appropriation. Mais c'est aussi un plaisir parce que ce thème que je vais introduire du développement humain et de la répartition des richesses est un thème qui revient de plus en plus, depuis la crise notamment, sur le devant de la scène. Ça n'est pas un thème très nouveau. Les économistes en ont parlé depuis longtemps et le premier d'entre eux, historiquement, Adam Smith, avait développé des pages sur cette question. Il reste que elle était restée un peu de côté, jusqu'à ce que la crise que nous venons de vivre remette le sujet en avant et que des initiatives comme celle, comme l'INDH, remettent l'accent et la lumière sur cette question de la répartition des richesses. Et en fait, parce que la crise a montré l'acuité nouvelle de cette question, c'est bien une question qui est posée par la forme de mondialisation que nous avons vécue, et c'est pourquoi il faut que nous réfléchissions ensemble à une nouvelle mondialisation. Cette mondialisation qui a aggravé les inégalités a apporté beaucoup, et il n'est sans doute pas nécessaire de faire une longue liste des éléments positifs. Des centaines de millions d'hommes et de femmes sont sortis de la pauvreté grâce au mouvement organisé par l'extension du commerce international, l'interconnectivité des économies, la croissance qui en est résultée avant la crise. Des murs sont tombés, notamment dans l'échange d'informations, dans les échanges de technologies, et le résultat, chacun le connaît, c'est que de nouvelles puissances économiques ont émergé, dont le Maroc fait partie, et l'équilibre des forces économiques sur la planète est en train de changer très profondément. En fait, nous vivons la fin d'une période qui a duré 2 siècles, dans laquelle un certain nombre de pays de taille moyenne, dont le mien, enfin le premier mien, le français, le deuxième mien est marocain, ont profité parce que la technologie était restée entre leurs mains. Et c'est comme ça que les Français, les Anglais, des pays de taille moyenne, ont pendant une période qui a commencé au début du 19e siècle et qui s'est achevée au cours du 20e, à dominer le monde parce qu'ils gardaient la technologie pour eux. Puis les Américains, dans la même veine, ont pris le relais. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que cette technologie est à la disposition de chacun, de plus en plus à la disposition de chacun. Cela mettra 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans peut-être pour être totalement vrai, mais ce monopole de la technologie disparaît. Alors, nous revenons à ce qui a été l'histoire des millénaires de la construction de l'humanité, à savoir que c'est le nombre qui fait la puissance, la formation des individus, la cohésion de la société. Et nous revenons à cette situation-là aujourd'hui, avec donc l'émergence de puissances très nouvelles. Ça, c'est la face claire de la mondialisation. Et puis, il y a clairement une face sombre, qui est celle de l'écart croissant entre les riches et les pauvres, particulièrement entre les pays, mais aussi à l'intérieur des pays. C'est ce problème de la distribution des richesses que nous allons traiter ce matin. Chacun comprend bien comment une distribution de richesses inéquitable détruit le tissu social. Chacun comprend bien que ce n'est plus un débat théorique, que nous avons maintenant tous les éléments de mesure depuis des décennies qui montrent que les pays les plus inégalitaires sont ceux qui ont les pires indicateurs sociaux, ceux dans lesquels, quelle que soit la mesure que l'on prenne, l'éducation, la santé, l'accès des femmes au monde du travail, sont ceux qui sont en retard. Ce sont ceux aussi dans lesquels il y a la plus grande insécurité économique, la plus grande instabilité. Et donc le lien n'a plus besoin d'être démontré entre les inégalités dans la distribution des richesses, de revenus, de patrimoine, et puis la faiblesse de l'économie et de la société. Or, dans beaucoup de pays, cette inégalité a augmenté. Et c'est bien ça le fait nouveau de ces dernières années, ou parfois de ces dernières décennies, où les salaires réels ont stagné. Et chacun le sait, ça a été répété à l'envi dans tous les journaux depuis les débuts de la crise financière. La situation des inégalités aux États-Unis au début de la crise était revenue à ce que les inégalités connaissaient aux États-Unis avant la crise de 1929. Comme s'il y avait une sorte de marmite qui explose au moment où les inégalités sont trop fortes, non pas obligatoirement dans la rue, par des manifestations ou des révolutions, mais par un système économique qui se dérègle parce que la distribution des richesses n'est plus cohérente avec le fonctionnement de l'économie. Et tout ça vient d'un modèle économique dont on voit bien qu'il était, qu'il est peut-être encore, clairement déséquilibré et peu soutenable. Une croissance tirée par les dettes dans certains pays et financée par trop d'épargne dans les autres pays. Ce déséquilibre-là, il a été analysé, contesté pendant des décennies, mais il est resté en place. Il est resté en place jusqu'au moment où, finalement, il a rendu la croissance tellement peu soutenable qu'une pichenette financière, parce que, finalement, la crise des subprimes aux États-Unis, c'est une crise dans un petit secteur financier d'une partie du marché immobilier américain, est devenue, à la suite de ce déséquilibre, ou plutôt de cette situation qui était instable, est devenue une crise mondiale. Donc l'illusion que ce système peut marcher, qu'il est soutenable, comme disent les tenants de la croissance verte au départ, mais qui est aujourd'hui un concept adopté par tout le monde, l'illusion que cette croissance était soutenable, même si elle générait des inégalités, même si elle ne favorisait pas la distribution des richesses, cette illusion s'est écroulée avec la crise. Ça pose des questions sur les pays que nous regardons le plus, les États-Unis, bien sûr, avec, comme juste avant la Grande Dépression de 1929, plus d'inégalités, donc plus d'endettement de ceux qui n'arrivent pas à satisfaire à leurs besoins, donc la croissance d'un secteur financier, donc au bout d'un moment, l'emballement de ce secteur financier. Mais ça pose des questions aussi dans des pays nouveaux. Et clairement, en Chine aujourd'hui, la façon dont le modèle fondé pendant longtemps sur l'exportation, qui a permis ces gigantesques accumulations de réserves en Chine et aussi la forte croissance chinoise, a été générateur d'incroyables inégalités entre les provinces côtières qui exportaient et le reste du pays. Et le changement de modèle pendant la crise des autorités chinoises se recentrant sur la consommation intérieure n'a pas pour principale motivation le fait que les autres pays poussaient la Chine pour des raisons d'équilibre international à essayer de revenir à quelque chose de plus domestique, de plus centré sur la croissance interne. Il a pour origine le fait que la tension en Chine même devenait telle qu'il fallait faire évoluer le modèle. Et s'il fallait aujourd'hui un exemple de ce qu'il n'y a pas de croissance soutenable à long terme qui ne soit d'une manière ou d'une autre enracinée dans une distribution minimale, une redistribution minimale des recherches, ce qui ne veut pas dire un égalitarisme forcené dont on sait qu'il n'est pas souhaitable et qu'il n'a jamais réussi, mais une redistribution suffisante des recherches, s'il fallait un exemple, celui que la Chine nous fournit aujourd'hui est, je crois, particulièrement frappant. Si bien que, bien sûr que la croissance soutenable a plusieurs causes, mais il serait déraisonnable d'en extraire ou d'en oublier ce qui repose sur la distribution des richesses à l'intérieur des pays ou entre les pays. Et c'est encore plus vrai, évidemment, des pays les plus pauvres, où les inégalités empêchent les jeunes de saisir des opportunités, de créer des entreprises parce qu'ils ne trouvent pas le financement et donc nuisent à toute forme d'initiative et de créativité. Et on sait bien comment ces pays ont particulièrement besoin de ce pas en avant que les générations jeunes dont elles sont riches pourraient provoquer, bloquer ce pas en avant par une situation inégalitaire trop forte. Ces pays les plus pauvres sont du coup aussi les plus sensibles au choc. Et on a vu comment, dans cette crise financière, c'était ceux qui finalement payaient le plus le prix, même s'ils n'étaient pas à l'origine des difficultés. Si bien que je crois vraiment que nous sommes au début d'une nouvelle ère, en tout cas d'une nouvelle ère possible, et qui dépend de nous d'arriver à la saisir. Évidemment, il ne s'agit pas de tourner le dos à la mondialisation, ça n'aurait aucun sens. Mais il s'agit d'essayer de construire une mondialisation avec un autre visage. Nous devons utiliser le marché pour la croissance et personne n'a trouvé de moyen de fournir de la croissance, du pouvoir d'achat, de l'emploi, sans que ce soit au travers du marché. Mais nous devons aussi refuser que la fameuse main invisible du marché devienne un point invisible qui frappe les plus démunis. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en termes de politique économique? Juste quelques exemples pour ne pas trop abuser de votre temps. Ça veut dire d'abord que si nous voulons changer de modèle économique, si nous voulons une nouvelle mondialisation, il faut rééquilibrer la croissance. Il faut qu'elle repose plus sur la demande interne, moins sur les exportations, et que ça permette de générer une classe moyenne. Car finalement, la redistribution des richesses, c'est avant tout la création d'une classe moyenne, c'est aussi évidemment l'aide apportée aux plus pauvres. Mais en termes de dynamique sociale, c'est la création de cette classe moyenne, les exemples partout dans le monde le montrent, c'est la création de cette classe moyenne qui fait que le début de croissance, générant des couches nouvelles, porte en elle la suite de la croissance. Rééquilibrer la croissance, et pour ça les outils sont bien connus, c'est la mise en place de filets de sécurité sociaux, de systèmes de sécurité sociale, ça dépend des pays, c'est la mise en place d'investissements dans les infrastructures, c'est aussi évidemment la poussée vers une croissance plus innovante, plus verte, génératrice de productivité. On voit bien les éléments, chacun les connaît. Et quand on voit dans le Maroc d'aujourd'hui comment les infrastructures sont mises à l'honneur, je ne pense pas simplement aux infrastructures routières, mais aux infrastructures portuaires, d'autres de cette nature, on voit bien le chemin qui est le bon, qui est suivi, et les résultats, évidemment, qui sont au rendez-vous. Mais avant de changer de modèle, de créer un nouveau modèle, nous avons besoin aussi de traiter les problèmes du vieux modèle. Parce que sinon, ils finiront d'une manière ou d'une autre par nous rattraper. Et il y a une longue liste de problèmes du vieux modèle. Je veux juste attirer votre attention sur l'un d'entre eux, dont je crains qu'il soit loin d'être résolu. Ce sont les problèmes du secteur dont on a le plus parlé au cours de ces dernières années, c'est-à-dire du secteur financier, celui qui a été à l'origine de la crise dont nous sortons à peine, et je ne crois pas qu'on puisse vraiment dire d'ailleurs qu'on en est totalement sorti. Ce secteur financier, les chefs d'État, de gouvernement réunis dans le G20, à Londres, à Pittsburgh, encore à Toronto, demain en Corée, l'ont dit haut et fort, et la population du monde avait besoin de l'entendre. On va le réparer. Plus jamais le secteur financier, dont il est normal qu'il prenne des risques, il est là pour ça, mais qui doit limiter sa prise de risque à ce qui est raisonnable, plus jamais ce secteur financier ne dérapera comme il a dérapé. La réalité est malheureusement un peu plus complexe. Beaucoup a été fait en matière de réglementation. Peu a été fait encore en matière de supervision internationale. Si bien que vous pouvez avoir la meilleure réglementation du monde, si elle n'est pas supervisée, si sa mise en œuvre n'est pas contrôlée, alors ça ne sert à rien. Et donc nous avons encore énormément à faire. Non pas que je pense que le système financier soit aujourd'hui aussi fragile qu'il était avant la crise et que nous ayons donc des risques d'une nouvelle crise de même nature demain matin, mais qui peut dire si dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, nous n'aurons pas aussi une crise financière, et pour cela, il faut que les instruments de cette supervision soient en place. Il y a donc beaucoup à faire pour réparer l'ancien modèle avant qu'il puisse vraiment, véritablement servir de base à ce que doit être ce nouveau modèle. Et puis l'autre problème, bien sûr, que nous devons traiter ensemble, pour pouvoir changer de modèle et créer un modèle plus participatif où la richesse sera mieux répartie et surtout où le sentiment que chacun bénéficie de la richesse créée sera plus fort, c'est qu'il faut trouver des éléments de solution à un problème qui va devenir lancinant, s'il ne l'est pas déjà dans beaucoup de pays, qui est évidemment celui du chômage. Pendant la crise, le monde a perdu à peu près 30 millions d'emplois. Il faut les recréer. Mais il faut les recréer en ayant à l'esprit que dans les 10 ans qui viennent, 400 millions de jeunes vont arriver sur le marché du travail. Et donc les 30 millions d'emplois perdus pendant la crise, c'est un vrai problème, mais c'est un petit problème par rapport à la réalité de ce que va être le marché de l'emploi à l'échelle planétaire dans les 10 ans qui viennent. Créer en gros 450 millions d'emplois pour couvrir tout cela dans les 10 ans est quelque chose qui est un défi considérable. Or, on le sait tous, le lien avec le reste de l'activité humaine est évident. Quand vous perdez votre emploi, vous avez beaucoup de chances d'avoir des problèmes de santé, ou des risques d'avoir des problèmes de santé. Quand vous perdez votre emploi, vous avez de gros risques que l'éducation de vos enfants soit moins bonne que ce que vous auriez espéré. Quand vous perdez votre emploi, vous perdez foi dans les institutions, dans le fonctionnement de la démocratie elle-même. Et ça conduit à l'instabilité sociale, et ça a conduit parfois, on en a des exemples historiques, et même à plus petite échelle, je ne pense pas seulement à la Seconde Guerre mondiale, dans certaines parties du monde, ça conduit au conflit, ça conduit à la guerre comme solution à l'instabilité et à la perte de confiance dans la démocratie. Et donc, ce problème du marché de l'emploi, ce n'est pas simplement un problème en soi qui fait que chaque société doit naturellement fournir du travail à ses hommes et à ses femmes, en particulier à ses jeunes, mais aussi que s'il ne fournit pas ce travail, alors c'est l'ensemble de ce développement humain. J'ai évoqué la santé, j'ai évoqué l'éducation, le comportement civique et la démocratie, on pourrait allonger cette liste. C'est l'ensemble de l'insertion de l'homme dans la société qui est en cause. Il nous faut traiter ce problème. Nous avons une longue liste de choses à faire, à nettoyer, à régler, avant d'être capable de mettre en place véritablement un nouveau modèle de développement. Et en fait, quand je dis cela, je me trompe. Ça n'est pas l'un d'abord, l'autre ensuite. C'est les deux qu'il faut arriver à faire en même temps, et c'est bien la difficulté devant laquelle se trouve à la fois de vieux pays qui sont plus enracinés dans des traditions et des pays plus jeunes qui ont peut-être la possibilité, grâce à cela, et ils le montrent en matière de croissance, d'aller plus vite et de rattraper. En Afrique du Nord, on voit bien la situation. La démographie particulièrement rapide est à la fois une force, une formidable force, et une bombe à retardement, parce qu'une bonne part des emplois à créer sont dans cette partie du monde. Un calcul récent du FMI montrait que dans les 10 ans, il faut 18 millions d'emplois dans les 6 plus grands pays de la zone Moyen-Orient et Afrique du Nord, dont le Maroc. 18 millions d'emplois, ça ne se crée pas comme ça, ça ne se créera pas tout seul. Et ce problème des jeunes, encore une fois, force d'un côté, mais difficulté majeure de l'autre, est le point sur lequel l'accent doit être mis. Si on me demandait quel est, je dirais pour le Maroc, mais c'est vrai pour bien d'autres pays, quelle est la priorité numéro 1, numéro 2, numéro 3? Je dirais la priorité numéro 1, c'est l'emploi et l'emploi des jeunes. La priorité numéro 2, c'est l'emploi et l'emploi des jeunes. La priorité numéro 3, c'est l'emploi et l'emploi des jeunes. Et tant que ce problème-là ne se verra pas suffisamment traité, et je sais combien les gouvernements font des efforts en ce sens, mais il faut être capable de les redoubler, alors tout le reste de ce que nous disons sur la nécessité de construire un monde différent et un développement de l'homme et de la femme différent restera, non pas lettre morte, mais restera sur le mode mineur, parce que nous ne serons pas capables d'aller au bout de nos ambitions. Quels sont les moyens de cela? Ça n'est pas le lieu d'en détailler les composantes trop longtemps, mais on sait la nécessité de l'intégration du régional, du marché régional, même si dans cette partie de l'Afrique du Nord, c'est particulièrement compliqué. On sait la nécessité de politique du marché du travail plus centrée sur la création d'emplois. On sait la nécessité de la redistribution et souvent de la mise en place d'un impôt progressif parce que c'est un élément de cette redistribution. On sait aussi le besoin de créer de nouvelles solidarités et le rôle que les associations, les ONG peuvent et doivent jouer dans ce domaine. On sait qu'il faut plus de pouvoir de négociation aux salariés pour que le monde des salariés soit plus organisé, moins débordé par sa base et plus apte à mener la négociation. On sait qu'il faut éviter d'avoir un marché dual du travail avec des insiders qui sont protégés et des outsiders qui sont laissés pour compte. On sait tout ça. Le problème, ce n'est pas l'analyse. Bien sûr, elle peut s'améliorer, mais on a les éléments d'analyse. Le problème, c'est comment est-ce qu'on est capable de le mettre en œuvre, comment est-ce qu'on est capable de le mettre en œuvre ensemble. Alors, ce sont mes mots de conclusion. C'est bien le « ensemble » aujourd'hui qui fait la différence. Le mandat du FMI, c'est d'essayer de contribuer, je ne dirais pas de garantir, ce serait prétentieux, la stabilité économique et financière. Et cette stabilité économique et financière, c'est le fondement du développement humain. Parce qu'il n'y a pas d'exemple dans l'histoire où le développement des hommes et des femmes, culturel, de formation, de santé, se soit fait sans qu'il y ait une stabilité économique minimale. Et donc, ça n'est pas simplement pour des raisons éthiques qu'il nous faut chercher cette stabilité économique. C'est aussi pour des raisons d'efficacité, parce que les deux sont totalement liés. Stabilité économique, stabilité financière, développement humain sont deux choses qui vont de pair et qui ne peuvent pas aller séparément. Si bien que le mandat du Fonds monétaire, qui peut apparaître strictement économique, strictement monétaire, un peu budgétaire, dépasse très largement cette idée-là. C'était d'ailleurs l'idée des fondateurs au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, vous vous en souvenez, dans cette fameuse conférence de Bretton Woods. Quand on relit les textes de l'époque, on voit que l'objectif, c'était bien sûr, à court terme, de mettre en place les éléments essayant d'éviter les nationalismes et les guerres économiques des années 30, dont sans doute on peut penser à juste raison qu'elles ont été une des causes de la Seconde Guerre mondiale. Mais ce n'était pas seulement ça. C'était faire cela pour, au-delà, garantir la stabilité économique et permettre l'épanouissement sur cette planète des hommes et des femmes. On sait combien de conflits sont à l'origine, sont fondés sur des causes économiques. On sait combien de famines, Amartya Sen a écrit beaucoup sur la question, combien de famines sont fondées non pas sur la véritable pénurie de nourriture, mais sur le fait que le conflit empêche de les distribuer à qui il faut. Et donc la stabilité sociale, qui elle aussi repose sur la stabilité économique, boucle, tout ceci va de pair, où on est capable de construire un développement harmonieux dont l'économie est une partie, seulement une partie, je le reconnais volontiers, mais une partie importante, ou bien si une des pièces du puzzle manque, alors l'ensemble s'effondre. C'est pour cela que je disais en commençant que nous avons besoin d'une nouvelle mondialisation, plus centrée sur son véritable objectif. La crise, de ce point de vue-là, a été, comme disent les Américains, un wake-up call, un réveil matin, nous a réveillés en sursaut, en nous disant « vous êtes en train de vous endormir ». Les États ont su y réagir en évitant quelque chose qui aurait pu être aussi grave que la crise de 29. Rappelez-vous, il y a 2 ans, en novembre 2008, nombreux dans cette salle, sans doute, pensaient à juste raison qu'on risquait d'avoir une crise aussi grave que la Grande Dépression. On l'a évité collectivement. On en a appris des leçons. Il reste beaucoup à faire. Et notamment, il reste à éviter que chacun rentre chez soi. On rentre chez soi avec l'idée que la crise est derrière nous, que donc tout est réglé, et qu'on peut retourner à ces petits problèmes nationaux, trouver des solutions nationales, alors que les problèmes sont globaux. Il faut que nous gardions cet esprit de coopération, de travail en commun, qui a été la marque de cette période, et je suis sûr que les livres d'histoire économique, dans 10 ans, dans 20 ans, retiendront de cette période que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, l'ensemble des pays de la planète, confrontés au même problème, au même moment, ont réagi de la même manière, de façon coordonnée, et que c'est pour ça que nous avons réussi à surmonter cette crise. Ça s'est fait notamment au travers du G20, mais le G20, ce ne sont que 20 pays, les plus gros, certes, les plus importants en PIB, mais ce ne sont que 20 pays. Au Fonds monétaire, il y a 187 pays, et quand j'en ai 20 qui se réunissent, comme ça va être le cas dans quelques jours en Corée, eh bien j'en ai 167 qui sont dehors et qui n'ont pas l'intention de voir leur destin déterminé par les 20 sans avoir leur mot à dire. C'est pour ça que la solution, ça n'est pas simplement ce G20, très utile, les chefs d'État se réunissent en Corée dans quelques jours, j'y serai avec eux. C'est le multilatéralisme, c'est justement des institutions, pas seulement comme le FMI, la Banque mondiale aussi, il n'y en a pas beaucoup d'autres, qui sont capables de rassembler universellement tous les pays de la planète et de discuter avec l'ensemble des pays, des plus petits aux plus grands, tenant compte des intérêts de chacun pour mettre en place cette mondialisation nouvelle. Et si les débats qu'on peut avoir aujourd'hui autour de ce thème de la redistribution de la richesse, mais qui vont aussi se développer sur d'autres thèmes, peuvent mettre en avant que, bien sûr, chacun choisit son destin et les peuples sont libres, mais aujourd'hui, que les peuples sont liés, libres mais liés, et que par conséquent, il faut pouvoir coopérer beaucoup plus qu'on ne le faisait dans le passé, si cette conclusion est une de celles qui émergent de la journée, je pense que nous aurons tous efficacement contribué à son succès. Merci beaucoup.
Merci, Monsieur le Directeur Général, pour ce brillant exposé et qui certainement va donner beaucoup de lieu à des questions de la part à la fois des intervenants ici et de la salle. Monsieur Salahdine.